18h, 19h30, le grand déballage avec Odile Farkan sur Beurre FM.
Eh ben c'est parti, bonjour à tous, il est 18h, merci d'être avec nous, le grand déballage. Je suis ravi, très heureux, vous savez, de vous retrouver parmi nous, sur Beurre FM bien sûr, de vous retrouver non pas le matin mais le soir désormais, et tous les vendredis. Tous les vendredis, alors ça s'appelle, attention mesdames et messieurs, le grand déballage, j'aime beaucoup ce nom-là, hein, petite dédicace à Nasser Kétan, le grand déballage parce que d'abord on va tout dire, on va raconter aussi, voilà, on va bien, on va pas bien, on a peut-être des coups de gueule, des coups de cœur, on va aussi commenter, vous savez, les sujets qui ont secoué la semaine, ça c'est intéressant. Alors par des nouveaux leaders d'opinion, paraît-il, ça s'appelle les influenceurs. Maintenant on dit plus polémistes, on dit plus débatteurs, on dit les influenceurs. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils sont partout, on parle très peu d'eux dans les médias traditionnels, sauf peut-être à quelques exceptions près, mais en tout cas on a parmi nous, vous savez, des personnalités féminines, mais aussi des hommes qui vont venir commenter l'actualité, vous le savez, commenter l'actualité sociétale, sociale, actualité politique et même people, figurez-vous. Ensuite, après, à partir de 19h, eh bien c'est à vous, vous allez pouvoir vous saisir de votre parole. Vous c'est qui? C'est vous qui nous écoutez. Hein, tous les vendredis désormais, inscrivez-le bien comme il faut, 18h, 19h30. Ça se passe ici, nulle part ailleurs sur Beurre FM. On va tenter de faire le buzz, y compris avec vous. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler tout à l'heure au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et c'est Zora qui a la réalisation. La charmante Zora, bonjour. Ah, t'as pas de micro, mais on t'écoute. Voilà, merci. Fidèle au poste, hein, ce que je vois. Hein.
Voilà.
Toujours fidèle. Zora, la charmante réalisatrice, qui se fera un plaisir de vous accueillir au 01 53 48 3000. Ça, c'est à partir de 19h. Alors, vous savez, une nouveauté. Cette nouveauté, il n'y a que des nouveautés. Vous, les auditeurs, vous pourrez interpeller les débatteurs que je vais présenter dans une poignée de minutes. Vous pourrez les interpeller. Vous pourrez, alors, les lyncher.
Oh,
pourrez les clasher.
Le guet-apens.
Le guet-apens. Vous pourrez aussi leur dire, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon.
J'ai un peu.
Voilà. Ça, c'est, alors, ça, c'est nouveau sur Beurre FM. C'est pas on ouvre l'antenne juste pour vous donner votre point de vue. Je vais donner les sujets d'actualité. Eh bien, vous pourrez aussi commenter, vous aussi, les sujets d'actualité avec les débatteurs qui sont sur ce plateau. Voilà le programme que je vous propose. C'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, le grand déballage avec Adil Farkan.
C'est parti, on la retour de ce plateau. Vous savez, je vais commencer par mesdames, que des nouveaux regards, des nouveaux influenceurs et aussi, vous savez, des gens que vous n'avez jamais entendus sur les ondes. Je commence par qui? Rose Amézienne, qui sourit. Voilà, Rose Amézienne, bonjour, comment ça va?
Bonsoir.
Entrepreneur.
C'est ça.
Femme d'affaires.
Oh.
Non?
Petite.
Alors j'ai bien compris, toi t'es entre la création d'emplois, tu proposes quoi? De créer des emplois et tu trouves des solutions. C'est Madame Solution, tu sais.
C'est
j'adore.
Ça. C'est Mary Poppins.
C'est Mary Poppins. Bon, ça va Rose, tout va bien?
Tout va bien, merci.
Ça marche?
Merci de m'avoir invité.
Bah écoute, heureux en tout cas, vous savez que vous faites un peu votre baptême de feu là. Hein.
Exactement.
Hein, vous faites l'ouverture de cette numéro zéro du grand déballage.
C'est ça, on attend les appels avec impatience.
À partir de 19h, voilà, on va vous clasher, vous allez voir. Ne rigolez pas trop, vous allez voir.
Pardon,
ne rigolez pas trop. Stéphanie, c'est de quoi on parle? Je crois qu'il s'est fait clasher ici à une époque où je faisais l'actu c'est toi le matin de 9h à 10h. À ses côtés, et ben vous savez, on a quelqu'un qui a fait parler d'elle, bien sûr. Elle s'appelle Julie Denet. Une poule sur un mur. Tiens, c'était son ouvrage. On va encore commencer aussi à me dire oui, il faut faire la promo. Oui, bien sûr. Une poule sur un mur aux éditions
Michalon.
Michalon.
Bonsoir.
Bonsoir Julie, comment ça va?
Ça va super bien, merci.
T'es en forme?
Complètement, oui. Prêt pour le déballage.
Le grand déballage. Attention, toi t'es juriste, t'es militante associative, tu es auteur. C'est vrai que tu fais... t'es aussi... On t'entend beaucoup sur les réseaux sociaux, hein?
Beaucoup, bah oui, mais ouais. Forcément. Je crée aussi à côté, pas forcément des entreprises, mais au moins des ONG et des assos pour faire entendre des voix un petit peu qu'on n'entend pas forcément. Donc, donc voilà, donc on nous entend beaucoup.
Féministe, hein?
Alors, féministe, pas forcément. C'est pas mon premier combat. Ça vient du livre. Vraiment, qu'on m'a collé cette étiquette-là, mais c'est pas une étiquette qui me va.
Ouais.
Voilà, moi, je travaille.
Qu'est-ce qui te va alors? C'est quoi? Il faudrait dire quoi alors si on dit pas féministe?
Il n'y a pas de cases. Je sais que la France aime beaucoup les cases. J'aime pas ça.
C'est très français, ça. Hein,
voilà, c'est très
français. On adore, il faut vous mettre dans des cases. Tu vois, devant mon écran, là, il y a des cases. Il faut vite que je coche.
T'as coché.
Si je coche pas, là, Rose, je sais où elle est.
Non. C'est vrai.
Mais attention, elle peut sortir de sa case.
C'est ça, voilà. C'est ce que j'attends, justement. J'attends.
Non, je suis plus, voilà, je travaille dans tout ce qui est droit humain. J'ai toujours fait, par mon travail de juriste, par mon travail associatif, donc c'est vraiment ça mon credo. Et ça passe forcément par le droit des femmes, c'est inévitable.
Bon, et vous allez pouvoir ouvrir votre gueule sur dans le grand déballage.
Oui.
Exactement. À vos côtés, on le connaît, il s'appelle évidemment... est-ce que je dois le présenter ? Attention, hein, il est un homme, il a fait beaucoup parler de lui. Stéphane Tsiki, ancien président des Jeunes Républicains. Il a été pro-sarkoziste, toujours pro-sarkoziste. Hein.
Oui, on reste fidèle.
Oh, fidèle, hein, toujours.
Vérité,
hein.
C'est important, les valeurs.
Toujours républicain, plus que jamais républicain.
Bah oui, bien sûr.
Il ne jure que par les républicains.
C'est important.
Alors, Wauquiez ou pas Wauquiez ?
Bah, Wauquiez, c'est le président. Hein.
Ah ! Non, je rigole, je rigole.
Il a gardé sa carte.
Il a gardé sa carte, il a conservé.
Il a gardé sa carte,
bien sûr.
Oui, bon. Ça se passe bien avec Wauquiez ?
Bah oui, on est dans une période de reconstruction. C'est vrai que l'année 2017 n'était pas une année radieuse pour nous.
On reconnaît le ton politique, vous avez vu tout de suite là.
Ah,
il est formaté, le WC.
Tu vas voir ici,
tu vas te lâcher là, parce que là, franchement, le truc formaté, conditionné, vous avez vu là tout de suite là ?
Enfin, il est plus politique que moi. Hein.
Non mais, tu lui poses juste une question, vous avez vu tout de suite là ? Comment il répond ? Non mais alors, vous savez, d'après la conjoncture actuelle, alors. Stéphane ! Lâche-toi, Stéphane ! Enlève ta veste et voilà. Libère-toi et voilà, fais-nous un show. Bon, merci d'être avec nous.
C'est toujours un plaisir. Toujours content de te revoir aussi, Adil.
Toujours, toujours. Et enfin, le dernier débatteur, influenceur aussi également, Emmanuel Dupuis, le président fondateur de l'IPSE.
Absolument.
Et paraît-il aussi que tu fais un peu de politique.
Alors, c'est Stéphane qui l'a dit. Hein.
Attention, hein.
Je continue à en faire, malgré tout.
T'es aussi pris par la.
Absolument. Mais tu
me crèves.
Je suis mis de ce côté comme ça, je vais pas.
Ouais, tu t'es mis tout ça là, il s'est isolé. Parce qu'on filme pas l'émission, mais Emmanuel, il s'est isolé. Il a dit, je veux pas refiler ma crève à tout le monde. Ouais. Il s'est isolé. Voilà, alors écoutez, voilà maintenant qu'on a présenté un petit peu les influenceurs, les débatteurs, les polémistes. On va démarrer avec les sujets. Le programme, le sommaire, vous le savez, Emmanuel Macron en visite à Calais. Quel choix sur l'immigration ? Qu'est-ce que cela vous a inspiré ? Est-ce que finalement Macron a été bon ? On parle d'une image positive le concernant. Deuxième sujet, à Roissy, vous savez, une mère de famille arrêtée à son retour de Syrie. Alors, elle revenait de Syrie via Istanbul, la Turquie. Cette mère de famille de 30 ans a été un peu interpellée et placée en garde à vue. Moi, la question que je poserai ici dans le grand déballage, vous savez, la seule, unique question, quel sort pour les Français de Daech ? Parce que c'est assez compliqué, hein, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire. En tout cas, judiciairement, c'est compliqué. Et puis, Cyril Hanouna, vous savez qu'il a été accusé de banaliser l'islamisation en recevant... Attention ! Qu'est-ce que t'as foutu, Cyril Hanouna ? Il a reçu une femme voilée dans TPMP. Ça rejaillit. Et on lui dit, voilà. Il y a Bernard Delarvillardière, le journaliste d'enquête exclusive, qui a fait un tweet. Il a dit, Cyril Hanouna, il banalise l'islamisation. Parce qu'il a reçu une femme. Et ben, on va en parler, une femme voilée. En tout cas, ça parle beaucoup, ça a jasé sur les réseaux sociaux. Ça a même déclenché, vous savez quoi ? La haine des internautes. Je vous raconte pas. Moi, j'ai pas envie de déclencher des polémiques, si vous voulez, mais les propos racistes, je les ai tous quasiment lus, là, les quelques-uns. C'est dur quand même, hein. Très très dur. Et bah aussi, ça, vous allez pouvoir en parler avec nous ici. Et peut-être, j'ai bien dit, un dernier sujet, on parlera de la Corse si on a un peu le temps. Deux surveillants de la prison en Haute-Corse qui ont été agressés à l'arme blanche. Alors, une question qui s'impose. Est-ce qu'on peut parler de soupçons de radicalisation autour des établissements pénitentiaires ? Et puis surtout, vous savez quoi ? Les conditions d'insécurité que dénoncent souvent les surveillants.
Beurre FM, 18h-19h30, le grand déballage avec Adil Farkan.
18h08, si vous venez de le rejoindre, c'est parti, on va commencer avec ce premier sujet. Vous savez, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron en visite à Calais, j'espère que vous avez tous suivi cette histoire-là, quel choix sur l'immigration. Alors on parle, vous savez, comment tenir ? Est-ce qu'il y avait finalement, parce que moi j'ai vu quand même Macron, le chef de l'État, tenir un équilibre quand même qui n'était pas assez simple. Il voulait à la fois montrer cette image d'un nouveau président, il voulait effacer celle de Sarko, effacer celle d'Hollande, et puis montrer qu'il y avait un nouveau Macron, un Macron avec, vous savez, vraiment, on l'a vraiment senti, hein, dans toutes les images qui ont tourné partout, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, l'équilibre entre l'humanité et la fermeté sur l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec un peu ces discours qui ont été tenus ? Tiens, qui veut commencer ? Félix, pardon, Stéphane Tsiki, ou Rose, ou Julie ?
Non, juste...
Julie, Déné, allez, c'est parti.
Cette histoire d'équilibre entre humanité et fermeté, c'est pas nouveau. Mm. Enfin, ça a toujours été dit. Vous reprenez tous les anciens présidents, ils ont toujours dit et martelé ces mêmes choses. Équilibre entre humanité et fermeté.
Ouais, donc, pas tout à fait. Quand on pense à Sarko, par exemple, c'était plutôt fermeté, hein.
Franchement, il n'y a pas de la fermeté là-dedans non plus. dans ce fameux style.
Il y a le fan, il a un truc à dire.
Stéphane Tiki.
Non, mais c'est pas tellement. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Julie, mais je pense que c'était nous, on voulait une immigration contrôlée et régulée. Mais il faut un équilibre entre humanité et fermeté. Humanité dans le sens où on est pour accueillir des gens, mais il faut pouvoir les accueillir dans des conditions décentes.
Est-ce que vraiment on peut parler d'humanité là? Est-ce qu'il y a eu de l'humanité là depuis quelques semaines? Depuis quelques mois, on parle d'humanité, franchement?
Il y a eu de la pédagogie.
Ouais, de la pédagogie, là, je veux bien sur moi alors. Plus que d'humanité.
Je pense que d'abord, il faut rappeler un contexte politique. Ça fait qu'un an qu'il a été élu.
C'est Rosa Méziane qui parle.
C'est Rosa Méziane, effectivement. Ça fait qu'un an qu'il a été élu, qu'il a créé son mouvement un an avant.
Un an bientôt.
Je pense que là, il a envie de s'inscrire durablement dans une politique. Il montre qu'il a envie de prendre des décisions fortes. Et je pense que c'est l'une de ses cartes. Il a toujours répété que c'était un juste équilibre entre des décisions de droite et des décisions de gauche, qu'il fallait faire de la politique avec des bonnes solutions. Et là, on s'approche clairement des solutions de droite en montrant une certaine fermeté. Mmh. Il a envie d'asseoir un petit peu son mouvement. Il faut comprendre que ces élus n'ont pas d'ancrage local et c'est une manière de prendre une décision assez forte pour envoyer un message clair aux Français et montrer qu'il est aussi capable de faire preuve de courage et de fermeté, tout en rappelant avec pédagogie qu'il essaye de traiter humainement une question qui est cruciale vis-à-vis des migrants. Et il est vrai que des solutions ont été trouvées, en tout cas pour loger plus dignement ces migrants depuis quelques temps. Après, si on doit comparer...
Et ce coup de com', il a été réussi ou pas du tout là? Justement, quand on parle de pédagogie, puisque vous parlez de pédagogie, Rose.
Je pense qu'il a été réussi. Ça, c'est pour la forme. Maintenant, pour le fond, si on reprend quelques chiffres sur l'immigration... On se rend compte... Je peux vous en donner quelques-uns, parce que je suis quelqu'un de très scolaire et je suis partie aller les rechercher.
Il faut bien un pédagogue.
Exactement.
Voilà. Faire du Macron, on a bien compris.
C'est ça. Je pense que sur cette question...
À mon avis, elle a dû appeler à Macron avant. T'inquiète, compte sur moi, je vais défendre tes idées.
Quand j'ai appris qu'il y avait un Sarkozyste.
J'ai appris que le grand déballage, tu verras, tu vas comprendre.
Non, même pas. Mais pour le coup, je pense qu'il est bon de rappeler quelques chiffres. Sur 2016, la France, elle a délivré 227 500 titres de séjour, donc une hausse de 4,6 par rapport à 2015. Et globalement, on n'a pas une montée extrême de l'immigration. On a 33 000 titres humanitaires délivrés aux réfugiés. Et en parallèle, l'immigration professionnelle... on a eu de 22 600 titres. Donc, comparaison, c'est pas quelque
22 600,
chose.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a une volonté aussi de tout mélanger. Il y a les étudiants aussi, on les compte.
Exactement.
Les étudiants qui arrivent de l'étranger, on les compte parmi ces réfugiés.
Exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le principal motif de l'immigration, en fait, c'est l'immigration familiale pour 88 000 titres.
Oui.
Et l'immigration étudiante, c'est 70 300 titres. Donc, effectivement, comparaison, le nombre de migrants humanitaires, il reste assez ridicule. C'est 33 000. Pour autant, on les a, les premières années, à mon sens, pas particulièrement bien accueillis, et ça c'était sous le quinquennat Hollande, et je pense qu'il faut bien différencier l'immigration qu'on a ces dernières années, qui avoisine à chaque fois 200 000 personnes, et ça on n'est pas sur un chiffre qui est en évolution, et par contre on a effectivement ces réfugiés humanitaires qui sont relativement freinés quand on compare à d'autres pays, par exemple l'Allemagne.
Ça tombe bien ces chiffres. Alors, je donne la parole. Alors, vous savez, on se tutoie tous ici. Je donne la parole à... Tu n'es pas d'accord, Stéphane Tiki. Tu le disais tout à l'heure.
Oui,
pourquoi
non.
Il faut pas tout
mélanger. Pour moi, quand on parle de ce qui se passe à Calais, c'est pas tellement les migrants économiques, les étudiants ou ceux qui viennent. Le problème, c'est surtout que lorsqu'on a fermé Sangatte, ceux qui étaient là en place à l'époque, les migrants, ils sont partis en Angleterre. Et aujourd'hui, lorsqu'on a fermé la jungle, ils sont restés en France. Et il y a un vrai problème. C'est comment on arrive à garder sur le territoire des gens qui veulent partir en Angleterre. Et moi, je sais que c'est un coup de com', parce que dans la com', c'est bien fait. Mmh. Mais dans les actes, finalement, ils sont encore là. Et moi, je pense que la priorité, ça va être d'abord de renégocier les accords du Touquet. D'autant plus que maintenant, je vous apprends rien, mais l'Angleterre n'est plus vraiment au sein de l'Union Européenne avec le Brexit. Donc, il faut que l'Angleterre prenne sa responsabilité en disant, la France n'a pas accueilli.
Elle a filé un chèque, là, récemment.
Oui, mais c'est pas le chèque qui
confirme.
C'est pas un coup de com', ça, non?
Alors,
Rosa Méziane.
Sur ces 33 000.
50 millions d'euros.
Sur ces 33 000 personnes, ses positions sont assez claires. Il a expliqué qu'il étudierait au cas par cas les demandes de réfugiés politiques, l'objectif étant de pérenniser les personnes qui ont la plus grande possibilité d'intégration et de renvoyer les personnes qui n'ont pas vocation à rester. La vraie question, c'est de savoir combien vont être reconduits à la frontière et dans quelles conditions. Si on fait juste un petit rappel, et je vais être Madame Chiffre, je crois, ce soir.
Ah ouais, on va te coller cette étiquette là. À chaque fois qu'elle va venir en grand déballage.
Non, mais je pense que c'est intéressant.
Non, mais t'as raison.
Non, mais je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu les pays d'origine de de ces migrants. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ne proviennent pas tous de pays en guerre.
Allons-y.
On a 5900 dossiers pour le Soudan, 5600 pour l'Afghanistan, 4900 pour Haïti, 5600 pour l'Albanie et seulement 3600 pour la Syrie. Et si on rajoute les mineurs, parce que là, je ne parle que des adultes, l'Albanie est en tête. Donc, on voit clairement qu'on n'est pas sur des pays en guerre. Et je pense que c'est ce à quoi pensait Emmanuel Macron quand il étudierait les dossiers au cas par cas. Tout le monde n'a pas vocation effectivement à être figé politique.
Alors c'est une vraie question, Emmanuel Dupuis, vraie question là, hein,
oui, alors,
que soulève Rosa Méziane.
On pourra ajouter par rapport à ce qu'a dit Rosa, ce que tout dépend aussi
C'est Rose, mais...
Pardon, Rose.
Mais Rosas aussi, je trouve ça classe, hein, Rosas.
Il m'a rebaptisé.
Tout dépend des pays d'accueil de ces migrants. Vous avez évoqué un certain nombre de pays dont les demandes concernent la France. Si vous prenez l'Allemagne, c'est des pays qui n'ont absolument rien à voir. La plupart des migrants qui viennent en Allemagne sont des migrants venant de Turquie, du Kosovo et d'Afghanistan.
Exactement.
Donc ça dépend vraiment de l'attractivité
du chemin
que l'on se fait et
de
du chemin de transit ou d'accueil. Pour répondre à la question qui a été posée avant, et j'interviens dans la cantonade, si j'ose dire, si c'est un coup de com' ou pas. Oui, c'est un formidable coup de com'. Si on prend le traité de Sandhurst, où hier, Emmanuel Macron a redit à peu près la même chose à Theresa May qu'avait dit son prédécesseur, également à Theresa May. Et je prends le cas de la régularisation des mineurs. Vous savez qu'Emmanuel Macron a dit qu'il allait favoriser la régularisation des mineurs, voulant se rendre en Grande-Bretagne. Un nombre très limité de cas, 700. L'année dernière, il n'y en a eu que 17. Donc oui, c'est un formidable coup de com', parce que ça n'engage pas beaucoup.
Vous savez quoi, on continue d'en parler. Coup de com' ou pas, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Tout à l'heure, vous savez, on vous attend à 19h précisément au 01 53 48 3000. Coup de com' ou pas du chef de l'État Emmanuel Macron. On marque la première courte page pub. On se retrouve avec, bien sûr, Rosa Méziane, Emmanuel Dupuis, Julie Denet, Stéphane Tiki et vous-même. Ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. 18h, 19h30, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 18h40, merci d'être avec nous, c'est le numéro 0, on démarre avec vous et en grande joie et aussi en grand débat. Ça s'appelle le grand déballage, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, vous êtes les bienvenus, ravis de vous retrouver, c'est Adil Farkan et on sera là désormais tous les vendredis de 18h à 19h30 avec Rose Améziane. Comment ça va depuis tout à l'heure?
Toujours aussi bien.
Julie Dénès, et je dis depuis tout à l'heure Dénès, si vous saviez hors antenne, elle m'a pris la tête. Elle, alors, elle était prête à me cogner. Hein.
Ça
c'est pas Julie Dénès, c'est Julie Dénès, je te le dis, moi. Pardonne-moi, Julie. C'est vrai. Stéphane Tiki, ça va?
Ça va super.
Et enfin, Emmanuel Dupuis.
Toujours
la crève, toujours la crève.
Ça va mieux.
Ça va mieux. Bon, bah tant mieux. C'est quoi? C'est le micro qui te rend joyeux?
Ça me réchauffe.
C'est bien, c'est bien. Eh bien, vous savez, le standard, on l'ouvre à partir de 19h. Vous pourrez interpeller nos débatteurs, nos influenceurs. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et surtout, vous savez, vous aussi, vous pourrez commenter les sujets. Tout de suite, Roissy. Direction cette mère de famille, arrêtée, vous savez quoi, à son retour de Syrie. Elle était avec ses 3 enfants, des enfants mineurs, qui ont été pris en charge par le parquet de Bobigny. Mais elle, aujourd'hui, hein, elle est toujours gérée, évidemment, par la justice, et elle est arrivée à 22h. Alors aujourd'hui, la question qu'on pose, parce que ça soulève un vrai débat, les amis, et je vais le poser clairement. Aujourd'hui, finalement, 1700 Français partis faire le djihad depuis 2014. On parle aussi d'un chiffre un peu plus important, parce que les chiffres qui ont été fournis par le gouvernement en novembre dernier, je vais vous les livrer, 1700 Français sont partis rejoindre les zones djihadistes irako-syriennes depuis 2014. Ensuite, à cette date d'aujourd'hui, 278 sont morts, 302 étaient revenus en France, 66 femmes et 58 mineurs, et la plupart ont moins de 12 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel sort pour ces Français de Daesh?
Alors,
Rosa Méziane, ouvre le bal.
ce qu'il faut ajouter, c'est que sur les adultes qui sont revenus, tous sont passés par une garde à vue et la majorité sont emprisonnés. Donc aujourd'hui, c'est ça le sort qui est réservé aux personnes qui reviennent et ils ne cessent de revenir. La vraie question, c'est de se dire pour quelles raisons ils sont revenus. Est-ce que c'est pour eux l'échec de Daesh? Est-ce que ils estiment que le califat a échoué ou en tout cas qu'il n'y avait pas
ou eux-mêmes ont échoué tout simplement.
Exactement. Est-ce que
ou peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont qu'ils étaient dans l'erreur.
Et ben est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel en se disant que au final s'ils ont échoué dans leur quête, c'est que Dieu n'est pas avec eux et qu'au final le djihad n'a plus lieu d'être et donc il y a une forme de repentance. C'est peut-être des questions qui se posent et il faut effectivement essayer de communiquer avec ces personnes. Alors, je pense que la justice, tout d'abord, essaye de les interroger pour essayer de démanteler d'autres réseaux terroristes. Mais je pense qu'il serait intéressant de faire 2 choses. La première, c'est d'essayer d'utiliser ces personnes-là qui pourraient être dans une forme de repentance pour essayer de les utiliser, en tout cas, à bon escient, pour travailler sur les questions de
déradicalisation. Normalement, c'est à la justice de faire ce travail.
Oui, alors... Sur le travail, enfin, je pense que nul ne peut se dérober face à ses responsabilités et le passage.
Sauf que je ne t'apprends pas, Rose, que là, il y a aujourd'hui une loi qui est extrêmement sévère, qui a été d'ailleurs durcie.
Non, mais il est bien évident que hommes ou femmes qui se sont rendus en Syrie ne pouvaient pas nier le caractère délictueux de leurs actions. Et donc le fait de passer par la case prison, moi personnellement, ne me choque pas. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a aujourd'hui des personnes où il faut comprendre le départ de ce djihad. Il faut essayer de comprendre dans quelle fragilité ces personnes-là étaient. Et je pense qu'il y a matière à essayer de construire quelque chose avec ces personnes-là qui sont revenues pour essayer de lutter un peu plus face à ce phénomène de radicalisation.
Alors, Emmanuel Dupuis.
Non, je suis pas forcément d'accord.
On a bien compris.
C'est ça, parce que...
On n'est pas dans l'image, mais on le sent.
Par rapport aux chiffres qu'a donné Adil, ce qu'il faut avoir encore à l'esprit, c'est qu'il en reste encore 700. Qui, eux, ne sont pas revenus ou dont on pourrait penser qu'ils ont été soit tués, soit qu'ils ont vocation à revenir. La question du repentir est une vraie question, mais un repentir 4 ans ou 5 ans après le début d'une offensive me paraît peu convaincant.
Il faut voir dans quelle mesure ils peuvent revenir. de là-bas. Beaucoup ont les a empêchés de fuir. Et je pense qu'on a suffisamment de témoignages dans ce sens-là.
Notamment les femmes. Hein.
Exactement. Oui. Aujourd'hui,
moi, j'ai d'autres témoignages.
Emmanuel Dupuy est en train de nous faire comprendre qu'en gros, 4 ans, bon, ça fait un peu léger pour se dire, ouais, mais finalement, non,
qu'on s'entende. Moi, le côté punitif ne me gêne pas. Et je pense qu'il est essentiel. Ouais. Et d'ailleurs, dans la reconstruction, ou en tout cas dans la demande de pardon.
Ah, mais là, il te répond, Emmanuel Dupuy. Il est en train de te dire que finalement, 4 ans après. Est-ce que réflexion? Est-ce qu'il lui a fallu 4 ans pour se dire je vais mûrir en me disant
que c'était aussi...
oh, finalement je suis un repenti.
Y a peut-être
moi je vais juste terminer d'une phrase.
Ça va faire polémique cette histoire là, je le sens.
Si vous permettez, après la vraie question c'est si ces gens ont commis des méfaits, à ce moment-là il faut pouvoir les juger à l'endroit où ils ont commis ces méfaits. Et ça ouvre la vraie question.
Mais la France a autorisé
En
Irak par exemple. Oui, par défaut.
Parce qu'il y a un État.
En Irak.
En Syrie ?
En Syrie, non, pas en Syrie.
Il y a un État,
en Irak, la France a autorisé.
Pas.
Elle a dit, les Français de Daesh, moi, je vous autorise.
Voilà. Donc la question ne se pose pas pour l'Irak.
Vous pouvez.
La question se pose pour la Syrie. Et c'est la vraie question de savoir qui a la capacité de pouvoir juger sur place, puisque la plupart
Très bonne question.
Des Français et des Françaises qui sont allés commettre le djihad ont commis le djihad sur place. Puisque les attentats qui ont été commis sur nos territoires français ou européens ne concernent pas les mêmes personnes. Donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio juridique.
Et c'est la vraie question, c'est la question que je pose justement.
Moi j'ai pas forcément de réponse mais j'ai un avis. Alors premièrement on est dans une configuration où il me semble que remettre à une autorité qui n'a pas vocation à être un État le soi-disant Kurdistan syrien, qui n'est pas un État. Mm. Et de s'en remettre à une situation qui, pour l'instant, ne concerne que 30 hommes et femmes. Pour que, pour l'instant, les autorités kurdes syriennes n'ont sous leur...
autorité.
Dans leur prison que 30 hommes et femmes. Ils ont arrêté 1400 djihadistes, mais pour les Français, c'est 30 hommes et femmes. Donc la question se posera... à mon avis, avec une plus grande prégnance, quand la guerre contre le terrorisme sera terminée. Et l'autre vraie question, c'est que la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée.
Mmh. T'es en train de nous dire là, clairement, que c'est une grosse épine dans le pied, les autorités françaises.
Pour les autorités françaises et pour les autorités les autorités occidentales, les autorités européennes aussi.
Bah, c'est un phénomène un peu inédit, ce que t'es en train de nous dire.
Alors, je sais pas si c'est inédit, mais en tout cas, il faut falloir s'y préparer. Premièrement, parce que ce qui se passe en Syrie et en Irak pourrait très bien concerner d'autres territoires. Mmh. Imaginons que les Français partent maintenant combattre en Afghanistan, qui redevient le nouveau front dans lequel Daesh est en train de se fortifier. Ou même en Libye, puisque là aussi, on ressent la remontée, la reconstitution de foyers terroristes de Daesh. Donc la vraie question est de savoir... comment est-ce qu'on arrive à travailler avec les États? Et donc, qu'est-ce qui pose la vraie question pour nous de savoir si on reconnaît ou pas la Syrie?
Je poserai la question aussi, que faire des épouses? Des épouses, des enfants, qu'est-ce qu'on fait d'eux?
Alors, enfin, les enfants, c'est une question,
je suis désolée.
Les enfants, je pense qu'on s'accorde tous.
Je te donne la parole. D'abord, Rosa Méziane et Julie Dénès.
Pour revenir à ce que tu disais, clairement, s'ils fuient aujourd'hui la Syrie, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être ni jugés, ni... ils ont peur, clairement, de la prison syrienne. Donc, il y a clairement une prise de conscience que c'est la prison en France qui les attend. Si on part du principe qu'ils sont partis dans le djihad, dans le fait de mourir pour leur cause, la prison syrienne ne leur ferait pas peur. Et donc ils resteraient sur le champ de bataille à lutter jusqu'au bout et à mourir, puisque c'est pour cet objectif-là qu'ils sont partis. S'ils reviennent, c'est bien qu'ils ont peur de la prison syrienne, et donc il y a inévitablement une part d'eux qui sont en repentance.
Un point de vue intéressant quand même, Rose, là. C'est vrai.
Oui, non, c'est un point.
Ça tient la route.
C'est un point de vue qui se défend. Mais
oui. Julie Dénès.
Je ne partage pas, mais ils
et ensuite Stéphane Tiki. Julie.
Non, juste sur la compétence, du coup, à partir du moment où l'infraction a débuté sur le territoire national, c'est-à-dire association, malfaiteurs, terrorisme, etc., la France, elle est compétente à juger toutes ces personnes-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de question. Sur la question des enfants.
Les enfants et les épouses, on fait quoi?
Là, il n'y a pas de.
Qu'est-ce qu'on fait?
À partir du moment où on est victime, on est victime. Les enfants.
J'ai une nuance pour les femmes, je suis pas sûre que toutes les femmes étaient victimes.
Non, non, pas toutes les femmes. Non, non, mais quand je parle des enfants, il n'y a pas de débat à avoir. Mm-hmm. Les enfants sont des victimes, point barre. Et il va falloir les prendre en charge. Ce n'est pas toutes les ramener. Mm. Et de la même manière que de ramener les hommes et les femmes, ce n'est pas toutes les ramener et de les mettre en prison s'il n'y a aucun suivi. Ça ne sert à rien de les mettre en prison avec un état d'esprit et les faire sortir 15, 10 ou je ne sais pas combien d'années après avec ce même état d'esprit-là.
Tu vois bien que c'est un casse-tête. Mais ce que dit Julie Delay, c'est un casse-tête. Mais c'est terrible. C'est-à-dire, les enfants, on les laisse tranquilles. Les femmes, attendez, on se pose la question. La solution, Rose.
Non, j'ai pas une solution, mais j'ai un début de réflexion, si vous me le permettez.
Oui, vas-y, on te permet tout.
Je pense qu'il faut repartir depuis le départ. Dans quelles conditions ces jeunes et ces moins jeunes et ces familles parfois sont partis. Il y a inévitablement une fragilité et il y a la question du fait religieux. Aujourd'hui, nombreux sont ces personnes qui sont parties et qui ne sont pas forcément saisies du fait religieux. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'en France, le fait religieux, il est géré par des institutions. Ça peut être le CFCM, les mosquées en France, les écoles. Et il n'est pas uniformisé sur tout le territoire. Et on n'a pas, comme au catéchisme, une certaine trame où on doit apprendre des éléments. J'ai une petite anecdote. J'ai la nièce d'amis avec qui on discutait justement de ce qu'ils apprenaient à l'école et elles étaient capables de réciter une dizaine de sourates par cœur comme des poèmes et donc elles le disaient assez fièrement, la professeure nous a demandé de les apprendre par cœur comme des poésies, sauf qu'elles n'étaient pas capables de parler de la profession de foi qui est le premier pilier de l'islam. Donc à un moment donné, il faut essayer de comprendre comment ces Français de confession musulmane en France apprennent leur religion et je pense que ça c'est une vraie question.
Donc là tu nous parles d'éducation religieuse.
Exactement, moi je pense qu'aujourd'hui bon nombre de personnes qui sont parties ont aussi une connaissance biaisée et voire peu de connaissances de la religion et l'embrigadement est très facile pour ces personnes-là qui peuvent être dans des moments de leur vie assez fragiles.
Est-ce que clairement tous sont embrigadés comme tu le dis là si bien?
Non, je pense qu'une majorité
dans une histoire de...
Non mais quand on se fait embrigader en 48 heures sur YouTube...
Là on parle pas de terrorisme religieux, on parle de terrorisme tout court.
Non mais quand on parle de radicalisation express parfois en 2 mois, ça pose une vraie question, c'est à un moment donné comment on se saisit de sa propre religion ou en tout cas de celle qui nous est enseigner à un moment donné en tant que musulman en France. Et moi, je pense que ça, c'est une vraie question qui n'est pas uniformisée et où les institutions, en tout cas religieuses en France, s'en dessaisissent. Et je pense que ça, c'est un réel tort et ça fait beaucoup de tort à la communauté musulmane. Et on tous s'accordent à dire que ce n'est pas l'islam. Donc à un moment donné, si ce n'est pas l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam et à quel moment on commence à avoir une trame harmonisée en France dans les écoles et comment les mosquées enseignent la religion.
Rosa Mézel, elle est partie loin, les amis.
Il me semble
elle est partie au CFCM. Elle déclarait la guerre à tout le monde.
Elle
a dit non mais attendez, on va tout reprendre à zéro. Moi je vais vous montrer. Là, on va redémarrer la religion au point zéro.
Non mais parce que ça part de là, c'est dans quelles conditions ils sont partis. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent.
Oui, enfin,
0153483000. J'ouvre l'antenne maintenant. Si vous voulez interpeller un des débatteurs, un des influenceurs ou commenter, donner votre point de vue, vous pouvez le faire. Stéphane Tsiki.
Moi, je dirais déjà qu'ils sont partis librement, puisqu'ils ont voulu partir. Donc, ils ont fait ce choix de partir. Et j'ai regardé un peu aussi au niveau des chiffres. Donc, c'est 1700 Français qui étaient partis rejoindre des zones djihadistes irako-syriennes depuis 2014. Et à cette date-là, il y avait 278 qui étaient morts et 302 qui sont revenus en France. Parmi lesquels, il y avait 66 femmes et 58 mineurs, la plupart de moins de 12 ans. Donc, moi, la première chose à faire, c'est au niveau des femmes. Moi, je pense que dès le départ, dès qu'on arrive à l'aéroport, moi, je suis pour l'interpellation. Parce que il faut quand même faire attention à ceux qui reviennent. Parce que s'ils reviennent pour.
Elles sont interpellées automatiquement aujourd'hui, c'est ce qui est.
Oui, mais la mère de famille, elle a été arrêtée à 22h à Roissy.
C'est ce qui est fait de manière systématique.
Et aussi, toi, ça descend d'avion.
C'est fait, mais il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne souhaitent pas. J'ai entendu cette semaine certains députés, notamment En Marche, qui ont dit que c'était pas pour des interpellations, qu'il fallait voir.
Au cas par cas.
Ah, Encore une fois, c'est ce cas par cas.
Moi, je suis pas pour le.
Ça, c'est Julie Dénès qui dit ça.
Côté humain. Moi, je prends pas ce côté cas par cas. Par contre, sur les enfants, je pense que oui, il faut rien dire, même si je pense que il faut regarder, en fait, jusqu'à partir de quand on est enfant, parce qu'il faut aussi faire attention, parce que maintenant, dans les années qu'on vit aujourd'hui, les délinquants, et voire même les terroristes, ils ont pas tous 25, 30, 40 ans. Ils ont aussi quelquefois 16, 14, 15 ans. Non, même les enfants, moi je pense qu'il faut quand même les encadrer dans des centres, on
bien
peut quand même débattre
mais
avec eux.
On
ne
peut pas les accueillir comme ça. On a des enfants qui, à partir de je sais plus quel âge, 12 ans, j'en ai vu, qui manient des armes là-bas. Ils passent leur journée à regarder des exécutions, de la propagande. Enfin, on ne peut pas leur dire, voilà, demain tu vas aller à l'école de la République, voilà. c'est impossible.
C'est ce que je disais, il faut donc les encadrer.
Le logique,
c'est important. Quelque chose de très simple, mais c'est important, notamment pour éviter tout ce qui est cellules dormantes. Ouais. Et après, oui, c'est vrai que c'est un enjeu compliqué. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Emmanuel par rapport à est-ce que oui, il faut les juger là-bas, mais encore une fois, moi je pense que ceux qui reviennent, c'est parce que aussi ils savent que là-bas ils sont dans une situation compliquée et ils reviennent parce qu'ils disent bon, ben finalement, notre camp là-bas a perdu. Parce que ça, il faut le dire aussi.
C'est un vrai aveu d'échec aujourd'hui,
c'est
le
retour.
C'est
parce que là-bas on a perdu qu'il faut revenir. Mais je pense que là, sur ce point-là, il faut être ferme. Il faut éviter ce genre de risque. On a déjà eu.
Non, la question, on peut la poser.
Emmanuel Dupé.
On peut la poser autrement.
Oui.
Il n'aurait pas eu de défaite. Ils ne sont pas revenus.
Ben voilà. Ils ne reviennent pas parce qu'ils veulent revenir ou parce que la France en manque. Ils reviennent parce qu'ils disent on se trouve dans un guet-apens, on est bloqué, on a perdu. Donc, comme on a peur, comme tu disais tout à l'heure, de la justice kurde, syrienne ou irakienne, ben on se dit oulala, c'est peut-être mieux de revenir en France parce que là-bas, peut-être qu'on sera moins inquiétés.
Mais il est 18h55, s'il vous plaît, 18h55, on va marquer juste une courte passe. Ce sera la troisième. Sachez-le, on ouvre l'antenne, on en profite. Zora vous accueille. 0153 48 3000. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Vous pouvez interpeller sur l'immigration, Macron, son discours. On revient aussi sur le sort des Français de Daesh. On parlera aussi de Cyril Hanouna et quand il accueille sur TPMP cette femme voilée. Ce sera le troisième et le dernier sujet. L'antenne est ouverte. Profitez-en. Venez commenter cette actualité ou interpeller nos influenceurs. 0153 48 3000. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant.
C'est bidon.
Sur les 28
cas. On parle pas de centre, on parle d'enfants.
C'est la même chose.
Mais non, parce que
si les adultes ne peuvent pas être déradicalisés, comment est-ce que vous pouvez déradicaliser des jeunes? C'est la même chose.
Leur centre, je suis désolée, enfin c'est moi, je suis.
Voilà. Toi, tu dis que c'est bidon.
Oui, enfin voilà, c'est pas du tout comme
c'est
ça.
C'est pas un peu fort comme terme?
Non, mais il y a des statistiques. Hein. Il y a eu un centre et les gens
vu que ça marche pas, j'ai des doutes vraiment sur. J'ai entendu pas mal de choses, même sur la prise en charge en prison. Enfin voilà, on n'y est pas, mais c'est une question qui se réfléchit. C'est un protocole qui se met en place. On ne va pas dire on ne va pas les ramener parce que voilà, ils ont tué, ils ont machin.
J'ai soulevé une vraie question sur les enfants là. Hein.
Non, enfin voilà.
Compliqué.
On lutte contre quoi là? On lutte contre l'obscurantisme, on lutte contre des gens qui tuent. Et en parallèle, ce qu'on va leur envoyer, c'est quoi? C'est de laisser ces enfants-là leur dire débrouillez-vous avec ça.
Parce que quand il n'est pas d'accord. Stéphane Tsiki et ensuite Rosa Méziane.
On peut pas les accueillir en disant bon ben c'est pas on t'accueille, bon t'as tué mais on est sympa, on va être gentil.
Mais quand c'est pas une question d'accueillir comme ça, d'être gentil.
Tu dis oui mais on va pas leur montrer qu'ils sont fautifs. Bah il faut leur expliquer.
Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit qu'il fallait pas leur montrer.
Pardon, quand on a des enfants qui ont 15 ans, qui ont décapité des gens, ben moi je considère pas que c'est un enfant, c'est un criminel.
Non mais là il faut voir depuis combien de temps ces enfants-là ont grandi dans leur environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont pas non plus la responsabilité des choix de leurs parents. Quand ils arrivent à 10 ans et qu'ils ont grandi dans l'horreur, on peut pas non plus les condamner. Je pense qu'il y a un vrai.
Là, il y a un discours de
compréhension.
Et là, il y a un discours de fermeté. 0153 48 3000. On vous attend.
Moi, j'entends ce que tu me dis. Effectivement, les parents sont responsables puisque c'est eux qui ont emmené les enfants dans ce genre de situation. Mais à partir du moment où l'enfant lui-même, tout seul, à 14 ou 15 ans, il prend une arme et qu'il tue d'autres personnes, et ben il est aussi responsable.
Non, mais il ne peut pas être responsable d'avoir grandi dans un environnement meurtrier.
Mais pour autant, le mettre à cause de ses enfants innocents,
s'il a commis des crimes,
il est responsable. Alors, encore une fois, de quelle manière on a la certitude...
Ça devient chaud, là.
De quelle manière on a la certitude qu'ils ont commis des crimes, ces enfants-là? Ça, c'est la première chose. Et la seconde, non mais attendez, c'est-à-dire que dans les mouvements sectaires, à aucun moment, on pousse la responsabilité des enfants.
Il y a quand même aimé parce que tout cela est quand même assez bien documenté par les services de renseignement sur qui a fait quoi. Ça, c'est la première chose.
Ça, c'est clair.
Et donc, il faut laisser un petit peu de temps pour que les dossiers soient instruits. Encore une fois, 230 mineurs, on trouvera évidemment les responsabilités et la teneur des responsabilités. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, on parle d'un État dont nous ne reconnaissons pas la légitimité depuis 2012, la Syrie, mais il se peut que dans quelques mois,
Très vite, je te le dis.
La question ne se pose plus.
Récemment, le chef de l'État a reçu les opposants.
et va se tenir d'ici quelques mois à Sotchi en Russie une réunion dans laquelle
alors, le pays... Alors, je vais t'interrompre, pardonne-moi Emmanuel Dupuy. Priorité, vous savez, aux auditeurs. Parce que eux aussi, ça se trouve, ils ont un coup de gueule et ils sont pas d'accord et ils veulent l'exprimer. Je vais commencer par Ahmed du 9-3. Ah, Ahmed, bon, on a un problème de liaison. Samira du 92. Bonjour, bonsoir Samira.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue à toi Samira.
Bonsoir Samira.
Tu nous appelles d'où précisément, de quelle ville?
Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
Colombes, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as envie de quoi? Voilà, tu veux exprimer quoi précisément dans les sujets qu'on vient d'évoquer? Et à Ahmed, je parle aussi à Ahmed du 9-3 qui n'hésite pas de nous rappeler. On t'écoute,
alors,
Samira.
Tout d'abord, mes meilleurs voeux. Hein, je n'ai pas eu l'occasion de vous les souhaiter.
Eh bah, bien, merci bien. Belle et heureuse année également.
Merci beaucoup. Donc en fait, moi, c'est vrai que je suis un petit peu entre les deux. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié les prénoms, la jeune fille, la jeune femme qui a
parlé. Rosa Méziane, Julie Dénès.
Voilà, qui disait...
c'est Julie, c'est
là. Parce qu'ils ont grandi, dans un milieu où ils ne sont pas choisis. Je suis d'accord avec elle, mais en même temps, les parents, ils ont, ok, une part de responsabilité, mais bon, ils ont quand même commis un acte. C'est pas anodin de tuer d'autres personnes. Donc moi personnellement, je considère qu'il faut qu'il soit condamné et jugé, hein. En tant que
donc toi t'es plutôt le proche du discours de Stéphane Tsiki. Enfin, fermeté.
Je veux pas condamner, hein. Je veux
voilà,
encadrer.
Exactement, de la fermeté, parce que
encadrer les enfants.
Facile. Encadrer, fermeté.
C'est trop facile.
Ouais, sinon c'est trop facile.
Éviter les cellules de rente.
Voilà. Sinon c'est trop facile. Hein. C'est comme nos jeunes, ils disent bon ben tant que je suis mineur.
C'est toi qui l'interpelle, hein, Julie. Absolument. Ah, peut-être qu'on va la laisser répondre, Julie.
Oui, alors du coup, le parallèle avec les jeunes d'ici, là, ça va pas être possible. Du coup, ça va être un peu compliqué, mais c'est une question qui est délicate, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis, on n'a qu'à regarder nos textes aussi, c'est-à-dire que la responsabilité pénale, elle est à quel âge? Déjà, on va commencer par ça.
13 ans.
Voilà. Et ensuite, eh bien, voir. Enfin, on peut pas, occulter. Tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. On peut pas les juger comme si ils étaient nés ici, ils avaient grandi ici et tout d'un coup, ils commettaient une infraction pénale sur le sol national. Hors terrorisme, je dis.
Samira, ça te satisfait comme réponse ou pas du tout? Non, toi, t'es plutôt dans la fermeté.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fermeté.
Je reste dans ma position, moi, très sincèrement, je reste dans ma position, je comprends. Hein, comprends, ils ont vécu, du moins, ils n'ont pas grandi comme nous ici normalement, mais à partir du moment où on a une conscience et on se dit, tu es un être humain, pour moi, c'est pas
mais
normal.
Mais une conscience, ça se construit une conscience. Ça se construit. Là-bas, elle n'est pas construite, cette conscience-là.
Non, mais après, la liberté de conscience.
Rosa Méziane.
La liberté de conscience, c'est à partir du moment où on a le choix. Est-ce que ces enfants-là avaient le choix de ne pas commettre ces crimes? Est-ce qu'ils avaient le choix de ne pas prendre des armes? Enfin, je pense que c'est une vraie question qui se pose. Quand on parle d'environnement, c'est à un moment donné, c'est pas juste avoir grandi dans un état de guerre. C'est quelle était l'autorité?
Chacun d'entre vous pose de vraies questions.
Quelle était l'autorité de leurs parents? Qu'est-ce qu'on les a obligés aussi à faire? Moi, je pense que la liberté de conscience, elle est aussi en fonction de sa liberté de choix. Et là, clairement, ça pose de vraies questions sur leur choix.
Merci, Samira.
Mais quelque part, je me dis, est-ce que ces enfants, ok, s'ils ont l'opportunité d'avoir un suivi, quelque part, ça reste quand même, ils restent quand même dangereux. Parce que ça veut dire qu'ils ont une âge.
Il faut un suivi, bien sûr.
Ah oui, moi, personnellement.
Non, mais voilà. En tout cas, tu as exprimé ton opinion. Voilà. Tu as exprimé ton opinion et on t'en remercie. Merci. Alors, merci Samira. Merci. Reste fidèle au grand déballage de la toute nouvelle émission, tous les vendredis, 18h-19h30. Merci, Samira. Ali, du 95. Ali, tu nous appelles d'où précisément, de quelle ville?
Bonsoir
Ali, ouais, comment ça va mon cher Ali?
Bonsoir.
Ça va bien.
Tu nous appelles de quelle ville?
Franconville.
Franconville, sois le bienvenu. Est-ce que tu souhaites interpeller un influenceur, une influenceuse, un débatteur, un polémiste ou toi-même?
Je suis pas du tout d'accord avec Samira ni avec le monsieur dans le sens où
Stéphane Tsiki. Lui, j'adore, il se fait toujours cogner lui. Personne n'est d'accord avec lui.
Le punching ball.
Alors allez, on t'écoute.
Je trouve que la condamnation, elle est beaucoup plus dangereuse dans le sens où on va fabriquer pire dans nos prisons. Les enfants, ils n'ont rien choisi. On les a influencés avec un milieu qui est violent. Et je pense que n'importe qui, quand son père à 8 ans, lui dit « fais ça », il va le faire. C'est notre éducation, ça a été prouvé par François Dolto, ça a été prouvé par beaucoup de penseurs. Et je comprends pas pourquoi on va condamner des enfants qui n'ont rien choisi. Maintenant, un suivi psychologique et éducatif, s'impose. Ils sont responsables.
Alors Ali, maintenant que tu as cogné sur Stéphane Tiki, il veut te répondre.
Oui. Je vous en prie.
Ali, bonsoir. Il y a eu un quiproquo. Moi, je veux pas qu'on condamne les enfants. C'est pas ce que j'ai dit et c'est ça.
Tu l'as un peu dit quand même.
Tu l'as dit.
On peut rembobiner Zora. Zora, la réalisatrice, va rembobiner. Attention, Stéphane Tiki.
Il a dit encadré.
J'ai dit encadré, s'il vous plaît.
Non, c'est faux. Tu as parlé de condamnation.
C'est pour ça qu'on
Pardon, je dis encadré.
Zora, si tu veux bien, s'il te plaît, regarde ce qui s'est passé. Parce que là, ça devient chaud.
Laisse-le parler. Laisse-le parler.
Liberté d'expression, quand même. C'est censé être toi qui défends l'humain, Julie. Il faut appliquer l'humain.
J'ai rien dit.
Mais non, mais moi, pour être clair, moi, je veux pas condamner les enfants qui reviennent. Voilà. Comme ça, on peut pas dire que j'ai pas dit ou que j'ai dit autre chose.
Il faut faire quoi alors?
Moi, je demande juste que les femmes qui rentrent, elles soient interpellées. Et c'est ce que se fait déjà aujourd'hui. Et je demande que les enfants qui viennent, parce qu'il y a certains qui ont commis des actes qui sont pour moi plus graves que ce que commettent nos jeunes ici en France, soient encadrés, où on peut étudier un peu ce qu'ils ont fait et pour pouvoir encadrer ça. Parce qu'on peut
donc
pas les
changement de discours de Stéphane Tiki.
J'aimerais savoir pourquoi à chaque fois on fait le parallèle avec les jeunes de banlieue.
Non, mais parce que c'était la question qui était posée avant, la dame qui a pris la parole.
Non, c'est-à-dire qu'elle ne posait pas une question, c'est qu'elle partait du postulat c'était pas la même chose que des jeunes qui ici commettaient des méfaits. Mais le parallèle est plus que douteux avec nos jeunes de banlieue.
Il y a Ali qui reste avec nous et ensuite Emmanuel Dupuy.
Oui.
Ali, souhaites rajouter quelque chose?
Là, je suis d'accord avec Monsieur Seki, il n'y a pas de problème. Là, on est d'accord, on parle le même discours. Mais en tout cas, il ne faut pas condamner. Parce que pour moi, ça reste des mineurs, des enfants. Et ils n'ont pas choisi de partir en Syrie. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, aujourd'hui, dans nos prisons des mineurs? On est en train de fabriquer encore des délinquants. En plus, on va faire rentrer chez ces mineurs-là des délinquants. Et on va faire entrer ces mineurs-là des radicalistes. Donc ça va être encore pire dans les prisons. Donc je pense pas que c'est une bonne idée. Maintenant, je pense que c'est au gouvernement de mobiliser des éducateurs, des gens qui vont suivre les gens, ces mineurs-là.
C'est une question cruciale.
Dans le droit chemin. Mais en tout cas, ils n'ont rien choisi. Je suis pas d'accord avec Samira. Mais je suis d'accord avec M. Seki, par contre, maintenant.
Ben merci, Ali. Merci Ali pour ton intervention. Merci à toi. Reste fidèle, tous les vendredis 18h-19h30. 01 53 48 3000, on vous attend, vous nous interpellez, c'est évidemment votre liberté en toute liberté d'expression. Emmanuel Dupuy.
Évidemment.
Merci Ali, à bientôt. 01 53 48 3000.
Évidemment, aucune solution consensuelle. Il y a quand même un constat, c'est qu'effectivement, notre système carcéral n'est pas forcément le mieux adapté pour engranger cette nouvelle forme de criminalité et de radicalisation. J'ai pas la réponse. Mais si effectivement ces enfants rentrent dans le système carcéral, je suis pas certain que c'est une solution curative. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de bonne décision, mais il faut bien qu'on décide de faire.
C'est compliqué, hein? Quand je vous écoute, vous quatre, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Moi, je sais pas, la vérité, moi, je sais pas quoi faire. Je suis partagé à la fois sur ce beau discours de Julie Dénès, parce que j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et à la fois, Stéphane Tiki, il soulève, je vous jure, une vraie question. C'est vrai, il faut encadrer, il faut, je sais pas, alors peut-être le mot condamnation est extrêmement fort. Il faut trouver. On a beaucoup d'appels. On va les prendre. Vous voulez bien?
Oui.
Bien sûr.
Bien sûr.
Vous en redemandez alors.
On n'a pas eu le choix là.
Et il nous reste 20
j'ai
minutes.
J'ai gagné un ami, alors ça va. Hein. C'est après ça.
Ouais, mais tu l'as reconquis.
Il y en aura
un. Tu as convaincu un auditeur. C'est
convaincu, il a tourné sa veste.
Ce qui n'est pas simple. Allez, j'accueille Ben de Toulouse. Bonsoir Ben.
Bonsoir Ben.
Bonsoir Ben.
Ben, on t'écoute.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir, bienvenue à toi Ben. Tu nous appelles de Toulouse,
merci,
on t'écoute.
Merci infiniment, c'est très aimable à vous. Je suis à l'antenne là ou pas?
Bien sûr, on t'écoute.
Bien. Je vous appelle justement pour donner un petit point de vue concernant la situation effectivement que vous évoquez autour de votre assemblée.
On alors toi t'es plutôt d'accord avec qui autour de cette table?
Alors je viens juste de me connecter sur BRFM, j'ai pas trop entendu, mais j'ai entendu plus ou moins deux trois petites phrases là sur le sujet, sur la complexité du sujet en tous les cas.
Oui.
Et étant moi-même engagé dans tout ce qu'on peut appeler dérives sectaires, religieuses et autres, effectivement, djihadisme, tout ça.
Alors toi, tu dis quoi, Ben? Il faut quoi? Condamner? Il faut plutôt être ferme? Il faut plutôt être gentil? Il faut plutôt quoi? Il faut être, je dirais, voilà...
Alors, Moi j'ai pas mal de choses à relever surtout. Moi je pense que déjà il faut remettre les valeurs de l'homme. Les valeurs de l'homme et de l'humanisme, l'humanité
un ami.
En avant.
Ravi Julie Dénès. Elle est ravie. Ça lui plaît.
Donc, parce que les racines humaines, tant qu'ils ne sont pas revenus à l'humanité, je pense qu'on n'a rien compris, on a tout perdu. Donc c'est l'espoir, c'est le chemin que notre société, en tout cas, notre engagement, pour la cause de ces jeunes, entre autres. Alors pour ce qui est justement retour par retour de ces jeunes, effectivement, moi je parle du principe que les droits internationaux sont là, ils ont été ratifiés par pas mal de pays, entre autres, et ils se doivent d'être appliqués. Je parle d'enfants, de jeunes, mineurs, ils se doivent effectivement d'être rapatriés,
oui, oui, oui.
En charge, tel que ça a été très récemment dit et cité sur vos antennes. Par contre, effectivement, cela, effectivement, ça sous l'œil de la vigilance de toutes les autorités compétentes nationales et internationales, de façon à ce qu'ils soient encadrés et ainsi de suite. Voilà.
Merci Ben pour ton intervention et je compte sur toi, sur ta fidélité, tous les vendredis 18h-19h30, le grand déballage. Merci Ben. Allô, il nous a quittés. Ah ben il nous a quittés avant le. C'est ça. Merci Ben si tu nous écoutes.
Au revoir.
Je vais accueillir Rachid. Ah, il était encore là. Merci Ben, à bientôt. Rachid du 9-3. Mais où précisément du 9-3, Rachid? Bonsoir Rachid.
Bonsoir. Oui, bonsoir.
Quelle ville du 9-3?
Saint-Denis.
Saint-Denis. On t'écoute Rachid.
Moi je voulais juste souligner, en tout cas bravo pour le débat d'une part, et puis
Merci.
L'intervention impertinente, je crois c'est Rose Anésienne, hein, c'est ça, je ne me trompe pas.
Rose
Anésienne. Merci Rachid.
Elle fait foi. Hein.
Sur le principe et sur le fait que vous n'ayez pas, et je pense que c'est ce que les auditeurs de BRFM doivent entendre ce soir, c'est effectivement ce retour en France qui constitue pour moi une forme effectivement d'aveu d'échec de la part de ces personnes qui étaient parties pour essayer de trouver justement un martyr.
Oui.
Donc la finalité du djihad tel qu'il il le concevait au départ.
Oui.
Et entre les prisons françaises et les prisons syriennes, je pense que leur choix il a été très très vite fait. Moi je pense que Bachar el-Assad n'allait pas leur faciliter les choses en Syrie. Donc c'est ce constat d'échec d'une part sur finalement ce qui constitue aujourd'hui cette forme de djihadisme qu'on malheureusement on a pour habitude de pouvoir entendre dans nos banlieues populaires de la part de certains intégristes.
Oui.
Et puis par rapport aux enfants, très vite, vous disiez tout à l'heure, je pense qu'effectivement des enfants doivent être séparés dans un premier temps de ces familles parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont fait là-bas. Donc en termes de traumatisme, dans la tête d'un enfant, on voit effectivement des cadavres, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et de les mettre dans des structures où il va y avoir tout un travail psychologique qui doit être fait avec eux.
Ça, c'est le discours de Julie.
D'accord, c'est effectivement, voilà. Là où je suis un exemple vis-à-vis de votre intervenant, effectivement, de, je ne sais pas comment il s'appelle, de droite.
Droite, c'est Stéphane Tsiki.
Voilà, un petit parallèle, quand un enfant il fait un cauchemar, on ne le rebalance pas dans sa chambre, en lui demandant de continuer son cauchemar, on le prend, on le câline et on le prend dans ses bras, et effectivement, on essaie de le réconforter. Donc je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui à l'égard de ces enfants qui malheureusement n'ont pas eu le choix. Et c'est le travail qui doit être fait aujourd'hui, mais je reste vraiment là-dessus sur cette notion d'échec. Ils reviennent en France parce qu'ils...
Eh ben on l'a bien compris mon cher Rachid.
Merci beaucoup en tout cas.
C'est moi qui te remercie Rachid, reste fidèle. Tous les vendredis 18h-19h30, merci Rachid à toi. Je vais juste accueillir Driss avant la courte pause, mais je vais pas lui donner la parole. Je vois Zora, il me dit non, c'est l'heure de la pub. Je sais bien, ouais. Driss, bonsoir Driss de Toulouse. Bonsoir Driss.
Oui, c'est Driss.
Driss, tu es... Ah non, mais attends, tu es parti dans... Là, mais je sais que t'es bien élancé. Alors, ce que je te propose, on marque une courte pause, pub, et on te reprend tout de suite après. Est-ce que t'es d'accord avec ça?
Ça va bien te couper, c'est pour ça.
Ah, bon, bah d'accord. Alors, rappelle-nous, parce que là, je suis obligé de marquer la pause. D'accord, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, le grand déballage revient.
Le grand déballage revient dans un instant. 18h-19h30, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est déjà 19h22, j'ai l'impression d'avoir démarré l'émission il y a à peine quelques minutes, que c'est déjà la fin. Gemma va venir nous voir, mais je crois qu'on va gratter un peu de quelques minutes. Hein. Gemma, c'est la patronne de la radio. On lui transmet bien sûr les amitiés. Dites-moi, avant d'aborder le dernier sujet sur Cyril Hanouna, Driss, il est toujours là, Driss. Respect, Driss.
Toujours là.
Alors là, je te respecte. Merci pour ta patience. On t'écoute, Driss.
Y a pas de souci. Moi, juste deux mots à dire. La base, c'est l'éducation de l'enfant. Ça, c'est primordial. Si, comment dire, Tu
vas peut-être traduire, non? Si, on va traduire, parce que tout le monde n'est pas arabophone.
Moi, l'éducation, c'est primordial. Et les parents, il faut qu'ils soient derrière. Mais voilà, il n'y a pas de... Si à la base de tout ça, l'enfant, il va loin. S'il n'y a rien derrière...
Nous, on a bien compris, Driss, que pour vous, c'est l'éducation. Mais peut-être que ça ne suffit pas, l'éducation.
Non, l'éducation, il y a l'éducation, très bien. les parents, il faut qu'ils soient derrière.
Bon.
Il
n'y
a pas de souci.
Ok, bah, Driss, non mais c'est enregistré, j'ai bien compris, Driss. En tout cas, merci pour ton commentaire.
Ouais, pas de soucis.
Bonne soirée et à la semaine prochaine, sans faute, 18h, 19h30. 19h24, les amis, ça va vite. Dernier sujet, Cyril Hanouna qui est accusé de banaliser l'islamisation en recevant des femmes voilées dans TPMP. Oh là là, horrible Cyril Hanouna, qu'est-ce qui lui arrive? Il reçoit des femmes voilées? Bon, bah on va en parler. Parce que Bernard de Lavillardière, il tweet, il dit « Mais mon Hanouna, là, est en train d'islamiser les médias. » Et puis, il y a les internautes qui, eux, se lâchent et qui déclenchent la haine et avec ses propos racistes. Alors moi, j'ai envie de vous écouter. J'ai envie de faire un tour de table. Tiens, je vais commencer par Emmanuel Dupuis. Je vais t'écouter là-dessus.
Alors,
faux, vrai, faux débat.
Non, c'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
Ah. Qu'on peut élargir à plein d'autres émissions. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a une fâcheuse tendance dans les médias français à vouloir singulariser les choses. Quand il s'agit d'avoir un musulman, c'est forcément un musulman voilé, oubliant le fait qu'il y a des musulmans laïcs ou des musulmans agnostiques et pas forcément des musulmans qui sont dans la croyance absolue.
Exact.
Donc l'idée selon laquelle une femme voilée serait l'exemple même de ce que représente 10% de la population française, puisque c'est ce dont il s'agit pour la population musulmane française, me semble parfaitement exagéré et parfaitement, médiatique. Voilà.
En même temps, ce problème-là, il n'est pas soulevé, hein, ça ne fait pas polémique du tout en Angleterre. Hein.
Pour d'autres raisons.
Mais même c'est pas, ça ne fait même pas débat cette histoire-là.
Non, ça ne fait pas débat parce que la société anglaise n'est pas basée sur la même notion. L'intégration républicaine n'est pas tout à fait la même.
Alors,
que la communautarisation ou le parallélisme des communautés qui, encore une fois...
Ouais. Mais là, on pointe du doigt un truc. C'est que là, on pointe Cyril Hanouna, on dénonce en gros tentative de la banalisation du voile dans l'espace public. Rosa Méziane.
Alors, je pense que je pense qu'il y a la polémique, il y a l'intelligence autour de la polémique. À quel moment Hanouna banalise l'islamisation? Qu'est-ce que c'est que l'islamisation déjà? Moi, j'aimerais bien qu'on donne une définition. C'est quoi pour vous l'islamisation?
Alors, c'est... Alors, déjà...
Ça s'adresse au président de l'Ipsola. Attention, hein.
À quel moment est-ce que j'ai fait la jonction entre la femme voilée et l'islamisation?
Bah, si je reprends Adil, c'est... on accuse Hanouna de banaliser l'islamisation.
Oui.
D'accord. Moi, je ne vois pas à quel moment présenter une femme voilée, c'est être dans un début d'islamisation.
Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit.
Non, je pose la question, mais ce n'est pas forcément... je ne suis pas en train de dire que c'est ce que tu as dit. Je suis en train de dire que pointer du doigt la banalisation de l'islamisation juste parce qu'on voit une femme voilée à la télé, il y a vraiment problème. C'est pas ça l'islamisation.
Je suis d'accord sur cette information,
je ne suis pas sûre qu'à chaque fois qu'on présente des musulmans, déjà très souvent quand on présente des musulmans, j'en vois pas souvent à la télé, déjà. Quand on en présente, c'est très souvent des ex-musulmans. J'en vois beaucoup des ex-musulmans parler. Et d'ailleurs, la polémique n'est pas partie de Bernard de la Villardière, mais de Oussan, je ne sais plus qui a commencé à tweeter.
Walid Al-Husseini.
Exactement.
Qui est le fondateur du Conseil des ex-musulmans de France.
Voilà. Donc, il est très souvent, on entend parler des ex-musulmans, mais on entend peu parler au final les musulmans. Et moi, ça ne me gêne pas de voir une femme voilée. Mais ce qui me gêne, c'est que ça fasse polémique. Et on nie, pour le coup, on revient sur le même débat, on nie le choix, en fait, de pouvoir porter un voile ou non. Et ce qui me dérange, moi, c'est que ça fasse polémique.
C'est pour ça qu'on en parle.
Ça fasse polémique. Julie... Donc on revient, en fait, au final, pas sur la banalisation de l'islamisation, mais on en revient sur la question du voile.
Et il reste deux minutes, question, il faut que je fasse un tour de table, il faut que je le boucle.
Je pense que cette question, elle a été tranchée. C'est quand on est porteur de la fonction publique, mais une personne qui est dans le public, qui à un moment donné est amenée par le présentateur, elle fait ce qu'elle veut, elle porte son voile ou pas. C'est son choix et c'est son problème.
Julie Dénès,
Alors oui, enfin c'est un faux débat. Voilà, le tweet qui ressort un an après, enfin pour essayer de faire un buzz, je trouve ça assez nul. On est dans une émission qui est pas une émission politique, qui est pas une, enfin voilà, une émission de divertissement. Cette jeune femme est dans le public, donc c'est qu'elle avait le droit d'être là. Elle participe à un jeu, donc elle participe à un jeu. Point barre. Enfin voilà, pour moi il y a pas de polémique.
Pas de polémique, pas de débat. Stéphane Tiki, qu'est-ce que tu dis?
On va encore dire que je parle de ma paroisse, mais il faut rappeler la loi qui a été faite par Nicolas Sarkozy. Pardon de le dire, mais ça veut dire que le voile est autorisé dans un espace privé et interdit dans l'espace public. La télévision étant un espace privé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de polémique. Moi, je pense que notre ami Cyril Hanouna, qui est réputé pour faire du buzz, c'est la communication.
Je pense pas qu'il l'ait fait dans ce sens-là, honnêtement. Voilà, mais, il a choisi quelqu'un dans le public.
Pour
quoi.
Moi, il n'y a pas tellement de polémique. Je pense que la vraie question, c'est pas tant en fait sur les sémisations. Et c'est en ça que je rejoins un peu Emmanuel, c'est plutôt sur la laïcité, parce qu'en fait c'est se dire voilà, est-ce que ça dérange
en
que...
filigrane, c'est ça qu'on pointe.
Et puis pardon, avant de conclure, mais il faut aussi, alors ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Angleterre, c'est deux l'Angleterre et la France, c'est deux situations différentes.
Exact.
L'Angleterre c'est basé vraiment sur les communautés et la France c'est basé sur la République.
Exactement.
C'est important de le dire.
Et bien merci à vous, mille merci aux auditeurs qui ont participé, et désolé pour ceux qu'on n'a pas pu mettre à l'antenne. Je vous remercie à vous, c'était une belle première. Sachez que j'étais ravi en tout cas de démarrer cette émission avec vous. Merci Rosa Médiane, tu reviendras ?
Bien sûr, avec plaisir.
Avec plaisir aussi également. Entrepreneur autour de la création d'emplois et des solutions vers l'emploi. Julie Denès, tu reviendras ?
Oui, maintenant que tu dis bien mon nom.
Auteur, juriste, militant associatif. Stéphane Tiki, acteur politique chez Auprès des Républicains, tu reviendras également ?
Bien sûr, j'ai pas pris assez de coups ce soir, donc faut que je reviens.
J'adore, ils en redemandent. Et enfin, Emmanuel Dupuis, président fondateur de l'IPSE.
Moi, je reviendrai.
Même question.
Voilà.
Eh bien, c'est avec grand
plus
plaisir qu'on vous accueille. Merci à vous. C'est inscrivez-le désormais tous les vendredis 18h-19h30. C'est votre talk show et c'est aussi votre débat. Saisissez-le. Le débat continue sur les réseaux sociaux. Merci à la réalisation. À qui? À Zora. Très bon week-end et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Retrouvez le grand déballage en direct tous les vendredis de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net.